Vous savez que nous sommes dans une série sur se lever et bâtir avec Néhémie. Nous sommes dans le troisième dimanche de cette série. Et ce matin, c'est un thème très particulier qui est donné par ce chapitre 3 de Néhémie. Ça nous parle d'unité. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de cette arme de construction massive. À l'inverse de l'arme de destruction massive que l'on connaît dans nos mondes et qui font tellement de mal, le Seigneur nous donne une arme pour construire. Et pour que ça ait de grands résultats, non seulement dans nos vies, mais dans notre Église, et même qui ait un impact particulier. Et c'est ce que nous dit ce chapitre 3, il nous apprend à travailler dans l'unité. Il y a quelque chose qui est là dans le cœur de Dieu quand il regarde son peuple. Il ne regarde pas des individus isolés, chacun dans leur coin, qui font ce qu'ils veulent comme ça leur plaît, mais il regarde des fils et des filles d'une même famille. Amen. Est-ce que vous savez que vous faites partie d'une même famille? Une famille spirituelle, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on renie notre famille de chair et de sang. Au contraire, le Seigneur nous remplit d'amour et de grâce pour les bénir. Mais il nous appelle aussi à trouver chez notre frère, chez notre sœur, ce lien de l'esprit au travers de l'unité, afin que nous puissions ensemble construire pour le royaume de Dieu. Et nous sommes heureux de pouvoir partager ces choses ensemble. Donc on va lire quelques passages, parce que dans ce chapitre 3 de Néhémie, c'est un petit peu particulier, il y a plein de noms compliqués, parce que c'est les noms de l'époque, hein. Et on va pas tout lire, je vous laisse le soin de lire tout ça à la maison, mais on va lire quelques morceaux en tout cas, qui nous invitent à réfléchir sur ces choses. Néhémie chapitre 3, verset 1er, Éliakib, le grand sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'Iliakib, bâtirent des hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte, et la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Melatia, le Gabanonite, Jadon, le Méronite, les hommes de Gabaon, de Mitzpah, les ressortissants au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Udziel, fils de Arhaja, d'entre les orfèvres. Et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. On va aller au verset 25. Palal, fils d'Uzai, travailla vis-à-vis de l'angle de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui travailla Pénaja, fils de Paréoche. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Après eux, les Tekoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Jekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Anan, le fils de Tsaflaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mikkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres, les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Et on va lire au verset 6. Nous rebâtîmes la muraille du chapitre 4. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. L'important, bien sûr, ce n'est pas les prénoms, quoique ça serait tellement intéressant de plonger dans la signification. J'ai commencé juste pour mon plaisir personnel, je vous partage rien de ce que j'ai trouvé, mais c'est vraiment intéressant quand on prend le prénom de chacun de ceux qui sont postés sur la muraille et qui sont chefs d'équipe pour reconstruire une certaine portion de la muraille, ça vaut la peine de se pencher sur ces explications-là. Vous savez que dans la Bible, le nom qui est là, qui est donné, il a une grande signification même dans le domaine spirituel. Alors, il faut pas tout spiritualiser non plus, mais quand même, il y a des notions comme ça qui sont importantes et c'est bon de réaliser ce que Dieu veut faire. Moi, je voudrais me concentrer vraiment sur l'aspect de l'unité. Parce que c'est vrai qu'il y a des noms compliqués, c'est vrai qu'on comprend pas tout ce qui est dit, on ne visualise pas bien parce qu'on ne connaît pas la ville de Jérusalem, peut-être vous la connaissez mieux que moi. En tout cas, quand on étudie ce passage, il y a des choses qui nous interpellent. Déjà, le premier mot qui revient dans tout ce chapitre, c'est le mot « travailler ». Il y a un temps où il faut prier, et Néhémie, il a eu un temps où il a prié avec efficacité, vous vous souvenez ? Néhémie, il a eu à cœur, quand il a entendu parler des ruines de Jérusalem, il a eu à cœur de prier. Pendant 4 mois, il a fait ça. Il a eu à cœur de se laisser diriger par Dieu aussi, qu'il soit pas dans une mauvaise direction, quelque chose qui lui passe par l'esprit, mais vraiment que ça soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Et je crois qu'on a ce cœur-là aussi, on veut que ça soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Il y a eu une époque dans le livre des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et le résultat, c'était la catastrophe. L'ennemi qui venait, qui pillait, qui laissait comme des esclaves les personnes, comme des pauvres. Et voilà ce qui se passait quand chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais c'est tellement mieux quand on choisit de faire ce qui semble bon à l'Éternel. Parce que là, on sait que sa bonne main est sur nous. Mais il y a un temps où on sait quelle est la direction du Seigneur, on a prié, et il y a un temps où on dit « levons-nous et bâtissons », mais il y a un temps où il faut se lever et bâtir. Il y a un temps où il faut se passer à l'action. Parce que les belles idées, en France on est fort pour les beaux discours, les belles idées, bien présentées, les projets merveilleux, et après la réalisation. Regardez nos hommes politiques. Ils sont forts, non, quand même ? Au niveau des paroles, je parle. Je précise. Au niveau des paroles, quand on les écoute, mais des fois, on aurait les larmes aux yeux tellement on a l'impression que ils vont changer toute la France dans un instant. Je mets pas d'étiquette, hein, parce qu'ils sont tous pareils. Mais quand on regarde au Seigneur et à ceux qui nous appellent à faire, ils nous appellent, nous, à être des hommes de parole. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est pas difficile, hein? Et quand je dis oui à quelqu'un, je lui dis vraiment oui. Et quand je lui dis non, je lui dis vraiment non. On a le droit de dire non des fois. Des fois, on connaît des personnes qui osent pas dire oui de peur de choquer, de brusquer. Mais non, mais des fois, on doit affirmer aussi notre désaccord, mais avec beaucoup de respect. Est-ce que c'est un péché que de dire non? Ben, ça dépend des circonstances. Si c'est pour vous pousser à pécher, c'est pas un péché de dire non. C'est le péché de dire oui plutôt. Si quelqu'un vous dit, allez, viens avec moi en boîte de nuit. Viens, on va aller dans un club échangiste. Et que vous dites oui. Pour pas brusquer la personne. Eh ben, Dieu va pas être d'accord. Il faut dire non. Avec assurance. Travailler dans l'unité, ça veut dire déjà commencer à travailler dans des choses, les choses ordinaires de la vie. Et des fois, on a un espèce de décalage qui est fait dans notre esprit entre l'église, entre le lieu de culte, l'endroit 6, place Sainte-Blanche, et puis notre maison. On a l'impression que Dieu, il est plus présent ici à l'église, il est plus présent quand on est avec des frères et des sœurs que quand on se retrouve tout seul à la maison, ou quand on se retrouve au travail, ou quand on se retrouve en train de faire des courses. Et ça, c'est un mensonge du diable, parce que Dieu, il est le même. Dieu, il est partout présent par son Saint-Esprit, et il est celui qui veut nous inviter à réaliser cette vérité-là, que même dans les petites choses ordinaires de nos vies, nous devons être de ceux qui glorifient son Saint-Nom. Et vous voyez que l'exemple qui est donné, le premier verset, nous parle du grand sacrificateur. Pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup, mais à l'époque, c'était une des personnes qui avait le plus d'autorité, d'un point de vue spirituel. Le grand sacrificateur, c'est celui qui avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Le seul qui avait le droit de venir et présenter l'offrande pour le pardon de tout le peuple. Tous les sacrifices qui avaient été faits pendant toute l'année ne valaient quelque chose que s'il y avait ce rendez-vous-là un jour dans l'année, quand le grand sacrificateur se présentait dans le lieu très saint. Ça donnait la force à tout ce qui avait été fait avant. Donc il avait quand même une certaine autorité. Mais vous voyez que quand il s'agit de se lever et bâtir, le grand sacrificateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas dit « pendant que vous êtes en train de prendre la truelle et la pioche, moi je vais prier le Seigneur, moi je vais passer du temps à jeûner et prier. » Ah ça le fait, ça en jette, spirituellement parlant. Mais non, il s'est relevé les manches, Et il a dit, je vais bâtir aussi. Moi, je vais m'occuper de la portion qui est à côté du temple. Mais je vais bâtir avec les autres sacrificateurs. On va se mettre à l'œuvre également. Il a montré l'exemple. Et l'unité, ça passe déjà par là, de montrer l'exemple dans les portions de nos vies. Il aurait pu faire des sacrifices. Ils le font après, d'ailleurs. Ils ont consacré. Ils avaient cette vision. Et on voit que c'était les seuls qui l'ont fait. Mais ils avaient cette vision que quand ils font même un travail ordinaire, monter des briques, franchement, c'est pas un travail extraordinaire. Je respecte beaucoup les maçons parce qu'il faut y aller au boulot. Mais poser des briques comme ça paraît pas spirituel. Mais eux, ils ont fait ça et après, ils ont consacré tout ce qu'ils avaient fait au Seigneur en disant, Seigneur, ce que je fais dans les choses ordinaires de la vie, c'est pour toi que je le fais. Ça, c'est important d'avoir cet état d'esprit. Parce que déjà, si nous avons cet état d'esprit-là, nous bâtissons l'unité. Ça commence par notre maison, mais si on ramène tout ce que nous faisons pour nos enfants, pour notre épouse, pour notre époux, pour nos parents, pour ceux qui nous entourent, nos voisins, si on ramène tout ça en le faisant pour Dieu, alors laissez-moi vous dire que Dieu va vous bénir. Et Dieu va bénir l'Église au travers de vous. C'est obligatoire. Si on a cet état d'esprit, enfin, Paul l'a rappelé par le Saint-Esprit, que tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous sonnez? Ça veut dire quoi tout ce que vous faites? Toutes les chants que vous chantez, tous les cantiques? Bien sûr que il faut le faire avec pour le Seigneur. Il vaut mieux. Mais ça veut dire aussi, quand je vais chercher mon enfant à l'école, je veux le faire comme pour le Seigneur. Quand je rends service à un voisin, je veux le faire comme pour le Seigneur. Quand je ne sais pas, je vais transporter une personne qui n'a pas de véhicule, je le fais comme pour le Seigneur. Je pourrais multiplier tous les exemples, j'en ai noté toute une liste. Quand j'utilise mon téléphone pour prendre des nouvelles de quelqu'un, je le fais comme pour le Seigneur. Quand je propose mon aide à une personne âgée parce qu'elle est un petit peu en difficulté, je le fais comme pour le Seigneur. Est-ce que ça paraît moins spirituel? Bien sûr, ça paraît en apparence. On pense que la prédication, celui qui apporte la parole, il est beaucoup plus spirituel que celui qui passe le balai chez une mamie. Mais devant Dieu, laissez-moi vous dire que ça a la même importance. C'est même peut-être encore plus grand la personne qui, dans le secret, fait ce travail comme pour le Seigneur, parce que le Seigneur y regarde au cœur. Le Seigneur y voit de quelle manière nous nous comportons dans nos maisons. Et de quelle manière nous faisons les choses ordinaires de la vie? Est-ce que nous le faisons pour lui? Est-ce que nous glorifions son nom? Ou est-ce que nous le faisons pour nous, pour ceux qui nous intéressent? Est-ce qu'il y a ce décalage? En tout cas, ce passage est là pour nous montrer qu'il faut avoir ce désir de consacrer notre vie dans tout ce que nous faisons. Nous voulons le consacrer au Seigneur. L'unité se voit dans ce passage aussi parce qu'il y a des personnes de toute origine, de tout métier. Alors, ils sont tous d'Israël parce que c'était le cas comme ça, mais nous, on est dans une église. Et par la grâce de Dieu, depuis que Dieu a ouvert l'évangile aux nations, à Moissac, on vit cette réalité des nations, parce qu'on a des personnes de toutes origines différentes, et le Seigneur nous invite à, quelles que soient nos origines, à nous rassembler pour travailler ensemble. Mais on voit dans ce passage, il y a le grand sacrificateur, il y a les sacrificateurs, et puis d'un autre côté, il y a des orfèvres, il y a des parfumeurs, on voit qu'il y a des gens qui ils viennent d'autres villes, il y en a qui habitent dans Jérusalem, qui est donc dans la désolation, mais il y en a qui habitent dans les villes autour. Ils pourraient se dire, ça ne nous concerne pas, on va laisser Jérusalem comme cela. Mais ils savaient que Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est l'endroit qui représente la présence de Dieu. Et pour glorifier le nom du Seigneur, même s'ils sont un petit peu plus loin que les autres, ils sont venus, et ils sont venus travailler, ils sont venus se joindre. Il y a des hommes qui sont en vue, qui ont des positions sociales, il y a des chefs de district, si vous lisez tout le passage, vous voyez cela. Il y a des personnes qui sont sous les chefs de district, mais qui travaillent à côté de leur chef, et il y en a qui ont refusé de travailler, on l'a lu tout à l'heure. Il y en a certains qui ont dit, nous, on ne veut pas se soumettre à notre chef. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais ce n'est pas une façon que Dieu honore. Et je crois que si Néhémie, il a pris le soin de le noter, c'est pour nous dire, attention, n'oublions pas d'être soumis. Mais on voit qu'il y a toutes sortes de personnes. Même dans le verset 12, regardez ce qu'il est dit. À côté d'eux, travaillant avec ses filles, Shallum, fils d'Alochesh. Il travaillait, lui, et c'est bien précisé, avec ses filles. Ça veut dire qu'il y avait des hommes, il y avait des femmes qui étaient là. Il n'y avait pas de distinction. Le but, c'était de construire. Et le Seigneur nous a appelés de toutes sortes de nations différentes, de toutes sortes de langues différentes, nous a appelés à nous rassembler à Moissac pour que nous puissions ensemble construire l'église que Dieu veut que nous construisions dans cette ville et puis dans ce département. Et nous voulons ne pas tenir compte de nos différences. Bien sûr qu'à cause de nos origines différentes, il y a des différences. Vous en êtes conscients. Il y a des façons de voir qui sont pas tout à fait pareilles. Mais le Seigneur nous appelle pas à regarder à ça. Il nous appelle à nous mettre les uns et les autres au travail ensemble. Quand nous lisons les évangiles, les lettres, voyons cette pensée de Paul qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Amen. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que nous sommes un en Jésus? Ben, en tout cas, il faut travailler à cela, mais par la foi, oui, nous le sommes. Et vous regardez d'ailleurs l'explication, comment est-ce que c'est possible de faire abstraction de toutes nos différences? Juste avant dans ce verset-là, c'est dans Galates 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et c'est là qu'il dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Une fois que vous êtes devenus les enfants du Seigneur, là vous êtes maintenant dans cette capacité de balayer les différences. Tu es capable, mon frère, ma sœur, de regarder celui qui est à côté de toi et de le voir au moyen des yeux du Seigneur. Comment est-ce que Jésus voit ton frère ou ta sœur? Vous savez, des fois, on a des problèmes. Ça peut arriver. On a mal compris quelque chose. On est vexé. Il y a un petit problème avec quelqu'un. Mais comment est-ce que nous considérons cela? Il nous faut réaliser que la personne, elle est le fils, elle est la fille du Seigneur. Et c'est comme dans toutes les familles, il y a des moments où on se dispute, mais j'ai vu des familles qui se sont déchirées et qui sont jusqu'à la mort, même ont préféré ne pas se réconcilier. Et puis j'ai vu des personnes dans les familles qui ont choisi de régler les choses. Ça coûte demander pardon. Vous avez déjà fait ça? Des fois j'entends des gens, ils me disent, pour moi c'est facile de demander pardon. Mais tant mieux pour eux, même pour moi c'est pas facile de demander pardon. C'est un travail. Mais quand on prie pour cela, le Seigneur il nous conduit. Si on voit qu'on a quelque chose contre notre frère, si ce matin le Seigneur vous rappelle qu'il y a quelque chose que vous avez contre votre frère, alors priez Dieu qu'il vous donne son amour, qu'il ouvre vos yeux pour que vous voyez comme lui que la personne qui vous a blessé, c'est le fils ou c'est la fille du Seigneur. Et que s'il y a un obstacle qui est là, il faut tout de suite le régler. Peu importe les circonstances. Unis, quelles que soient nos origines, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer, de travailler. Unis, parce que nous avons des objectifs communs et que nous œuvrons ensemble. Vous savez combien c'est important quand des gens travaillent avec des buts qui sont les mêmes. Quel est votre but quand vous venez à l'église? Quel est votre but? Est-ce que c'est simplement de recevoir? On a le droit de venir pour recevoir? C'est un péché de venir pour recevoir? Heureusement non! Mais combien c'est encore mieux quand on vient, oui, pour recevoir, mais que tout ce que le Seigneur nous donne, on le redonne aussitôt. Toujours dans ce but de donner à notre frère, à notre sœur, à notre prochain. Et quand nous regardons ce passage de Néhémie, nous voyons qu'ils avaient tous, malgré leurs différentes origines, ils avaient tous le but de construire. Tout le monde faisait la même chose. Tout le monde prenait les briques, le ciment, et puis il construisait le mur petit à petit. Alors au début, c'est pas précisé, mais là on a lu le dernier verset qui nous montre qu'ils ont pris à cœur le travail. Petit à petit, en voyant celui qui est à côté de nous, alors on sait pas s'ils étaient à 10 mètres ou 50 mètres ou 500 mètres à côté, peu importe, en tout cas, dès qu'ils regardaient à côté, ils voyaient qu'il y en a un qui était à l'œuvre. Vous savez que ça fait du bien quand on vient et qu'on voit à côté de nous qu'il y a un frère aussi qui prie. Quand on vient et qu'on voit qu'il y a aussi un frère à côté de nous qui chante, ça nous fait du bien, ça nous encourage. Et si nous, on est un petit peu flagada parce que les circonstances sont là, mais ça nous redonne le moral de voir quelqu'un qui fait la même chose que nous, qui essaye de bâtir l'église avec ses moyens, avec sa façon de faire. Bien sûr, on va le voir tout à l'heure que Dieu nous demande pas de faire plus que ce qu'on peut faire. Dieu nous demande de faire tout ce que l'on peut faire, mais pas plus. Il est parfaitement équilibré. C'est important de dépasser ses intérêts personnels. Peut-être qu'il y en a qui étaient là et qui avaient leur maison qui était encore abîmée. Mais là, c'était le temps de bâtir le royaume de Dieu. Là, c'était le temps de construire la muraille. C'était le temps de s'unir pour un même but. Et c'est vrai qu'on doit faire attention à être équilibré dans nos vies. Il y a cette portion de nos vies qu'il faut construire et bâtir, c'est nos familles. On est dans un temps où la famille est malmenée et on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous ramener à prendre soin de nos familles. Mais des fois, on voit des gens qui prennent tellement soin de leur famille qu'ils se détournent de l'Église, qui ne prennent pas soin de l'Église. Mais laissez-moi vous dire que l'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez prendre soin de votre famille, le mieux possible, c'est de prendre soin de l'Église également. Et si vous voulez prendre soin de l'Église, bâtir l'unité dans l'Église, prenez aussi soin de votre famille. Sinon, vous faites un contre-exemple et ça ne marche pas. Si vos enfants ils ne vous voient jamais à la réunion de prière parce que vous leur dites « il faut que je prenne soin de toi », ça veut dire qu'ils comprennent que l'Église, c'est pas prendre soin d'eux. Comprenez ? Mais si vous leur dites « il faut que j'aille à l'Église prier et toi tu te débrouilles », ils vont comprendre que l'Église, ça leur prend tout ce que eux devraient recevoir comme amour. Il faut être équilibré. Vous êtes d'accord? Je crois vraiment que c'est quelque chose d'important. Et combien des enfants ont été blessés par l'attitude de leurs parents qui se sont trop investis à l'Église et qui ont négligé, et combien parfois des enfants ont été détournés de l'Église parce que les parents ne se sont pas assez investis pour l'Église. Et que le Seigneur nous dirige. Je mets de fardeau sur personne. Et je crois que le Saint-Esprit veut attirer notre attention ce matin sur ces choses. Il y a une expression qui revient entre le fait de travailler et une autre expression qui revient souvent, c'est à côté d'eux. À côté d'eux était telle personne. À côté d'eux était une autre personne. À côté de lui, à côté de lui, à côté de lui. Vous le lisez, j'en ai compté au moins 16 fois. Où il est marqué « à côté d'eux ». Combien c'est bon quand on réalise qu'à côté de nous, on a quelqu'un. À côté de nous, on a une personne qui peut nous aider. Vous savez que quelqu'un avait prophétisé que le 23 septembre 2017, vous savez que c'était hier, hein, qu'il y aurait la fin du monde. Bon, apparemment on est tous là, hein, donc c'était pas bon. C'est pas la bonne date. De toute façon, la Bible dit qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Mais je pense à une personne, moi, qui m'a interpellé, un monsieur qui a écrit un livre de 350 pages. Et moi, je l'ai lu par curiosité pour voir un petit peu ses arguments. Et ce monsieur, il avait dit que la fin du monde, c'est sûr, d'après tous mes calculs. Et puis, vous prouvez ça avec des schémas, des explications hyper compliquées, mais logiques et tout ce que vous voulez. La fin du monde, ça sera, c'était l'an dernier, entre le 13 et 14 septembre 2016. Et puis, quand c'est passé, qu'il s'est aperçu que ça marchait pas, il a refait tous ses calculs. Ah, il manquait une virgule par là. Et il a fait deux jours plus tôt. Non, ça sera le 16. Le 16 passe, et rien du tout. Et là, je sais pas où c'est qu'il en est de ses calculs, mais j'ai laissé tomber cette histoire. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est l'introduction de ce livre. Vous savez, des fois, on rejette certaines choses, mais on ne prend pas le temps de chercher à comprendre. Et moi, j'ai lu l'introduction de ce livre, et ce monsieur, il parle, il explique comme quoi il aime le Seigneur, comme quoi il a voulu absolument écrire ça pour que l'Église se réveille. Donc ça paraît tout à fait intéressant, mais ce qui m'a interpellé dans l'introduction, c'est que il dit, oui, voilà, j'étais dans une église, et puis j'étais pas content avec les frères et sœurs, je trouvais que l'enseignement, il n'était pas bon, il remettait un peu en question. Donc, je suis allé chez moi, j'ai dit, maintenant, je vais avoir ma communion avec Dieu seulement avec mon épouse. Voilà, on va rester isolés dans notre maison. Et puis, il dit, et c'est à ce moment-là que j'ai eu des révélations pour l'Église. Et là, j'ai dit, moi, avant de même lire la suite, c'est pas bon. C'est-à-dire que le monsieur, il s'isole de l'Église, il s'isole de ses frères et sœurs, et après, il reçoit des révélations pour l'Église. Ça marche pas, ça. Vous voulez bénir l'Église? Venez tel que vous êtes dans l'Église. Et laissez le Seigneur vous transformer, vous allez voir le résultat. Mais si vous avez des révélations pour les autres parce que vous êtes isolé dans votre coin, ça marche pas ça. Parce que Dieu nous appelle à être de ceux qui édifient l'Église. Des fois, on se met une pression en se disant « comment est-ce que je peux faire ?» Mais je vous le disais, simplement d'être présent, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien parce que celui qui est fatigué et qui voit votre sourire, qui entend une parole qui lui fait du bien, ben ça va l'encourager. Et j'entendais hier ce témoignage, j'ai même deux témoignages, mais hier il y avait ce témoignage d'un pasteur qui est en Inde. Vous savez qu'en Inde, il y a certains endroits où il y a la persécution qui est très forte. Et en Inde, il s'est fait mettre en prison à cause de sa foi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment une unité dans le cœur des personnes de l'Église qui étaient là quand ils ont appris que le pasteur était en prison. Alors, ils sont tous allés au commissariat, ils ont fait la queue, Et puis chacun son tour, ils ont pris rendez-vous avec le policier pour expliquer et plaider la cause du pasteur, pourquoi c'était un homme bon. Oui, il a prié pour moi parce que j'étais malade et le Seigneur l'a écouté, j'ai été guéri. Oui, il est venu visiter ma femme qui était à l'hôpital. Oui, il a fait ceci, oui, il a fait cela. Et chacun, les uns à la suite, il y avait une queue de 100 personnes devant le commissariat pour plaider la cause du pasteur. À la fin, le policier, il était là, il a dit, mais partez, je suis obligé de vous laisser. Parce qu'il y a des gens qui sont dehors, ils sont moins bons que vous qui êtes dans la prison. Ça vaut la peine quand des frères et des sœurs s'unissent et choisissent de travailler ensemble. J'entendais aussi ce témoignage la semaine dernière en Kabylie. Vous savez qu'en Kabylie, il y a vraiment une œuvre de Dieu qui se fait dans les moments que je parle, alors qu'il y a aussi une opposition qui est très forte à Tizi Ouzou. Il y a les voisins qui se plaignaient parce que pendant que les gens chantaient, ça faisait du bruit, ça les dérangeait, et ils se plaignaient. Et donc la police est venue, parce que la police était aussi hostile à l'église, et ils sont venus et ils ont arrêté le pasteur et l'ont mis en prison. Et pendant le trajet, le pasteur, il pose une question un peu bizarre aux policiers. Il leur dit, est-ce que votre prison, elle est grande? Alors le policier, il croit que le pasteur, il veut du confort dans sa prison. Il dit, mais non, non, si tu vas voir, c'est un 3 rats. Il dit, mais il vaudrait mieux que votre prison soit grande. Alors le policier, il comprend pas ce qui se passe. Puis ils le mettent en prison. Et là, c'est pareil. Tous les chrétiens de l'église, ils étaient, je crois, 200 à l'époque. 200 chrétiens qui se présentent au poste. Vous avez arrêté ce pasteur? Oui, c'est mon pasteur. J'étais avec lui quand il a fait le crime, donc je veux être arrêté aussi. Et donc, il y a 200 personnes qui viennent se livrer à la police en disant, on est coupable du même crime que ce pasteur, donc on veut être mis en prison. Et le résultat, c'est que la prison était trop petite. C'est pour ça qu'ils demandaient si la prison était grande. Parce que la prison était trop petite pour accueillir 200 personnes. Alors, ils ont dit, bon, mais pasteur, vous partez. Et le résultat de cette histoire, c'est qu'ils ont pu construire un local. Et maintenant, il y a 900 personnes qui bénissent le nom du Seigneur et qui dérangent les voisins par leur chant parce qu'ils sont pleins de ferveur, mais ils savent en qui ils croient et ils ont ce cœur qui est uni malgré la difficulté, malgré la persécution. Ils sont ensemble, les uns à côté des autres. Ils sont ensemble et ils travaillent dans le même but, le but de glorifier le Seigneur. Travailler pour Dieu, ça ne veut pas dire qu'on doit travailler de manière désordonnée, qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Je parlais tout à l'heure de ceux qui faisaient ce qui lui semblait bon. Et combien c'est dangereux d'être dans cette attitude-là. Mais le Seigneur nous invite à avoir cette unité qui est ordonnée, structurée. Paul le dit, que tout se fasse dans la bienséance et l'ordre. Et le Seigneur nous a donné à chacun des qualités, certaines façons de penser qui sont bonnes, des caractères plus ou moins expressifs ou pas expressifs, mais ça, c'est pas un péché. Et le Seigneur nous invite à chacun travailler à la place où il nous a mis. C'est ça, être ordonné. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas eu un tirage au sort pour savoir qui c'est qui va bâtir où. Si je vous avais posé la question à l'époque de Néhémie, qui c'est qui est candidat pour travailler à la porte du fumier? Il n'y aurait pas eu beaucoup de volontaires, parce que ça ne devait pas sentir bon. C'était l'endroit où tous les déchets étaient amenés. Mais vous savez comment ça a été choisi? C'est un petit peu révélé dans ce passage. Il est dit que chacun travaillait devant sa maison. Aussi simple que ça. Alors bien sûr, ça peut paraître égoïste. Mais vous inquiétez pas, quand vous travaillez devant votre maison, vous allez faire le travail comme il faut. Parce que ça vous concerne directement. Si l'ennemi, la brèche qu'il trouve, elle se trouve en face de votre maison, c'est vous qui allez prendre en premier. Et donc, il y avait aussi cette réalité qu'ils voulaient que les choses soient bien faites parce que c'était en face de leur maison. Et voilà de quelle manière le Seigneur veut nous appeler à ce que nous soyons de ceux qui servent dans les capacités qu'il nous a données. Mais ça s'arrête aux limites qu'il nous donne, le Seigneur. À l'un, il va donner certains talents, à l'autre, il va donner d'autres talents. Et le Seigneur nous invite à tous ensemble construire, mais dans la limite de ce qu'il nous demande de faire. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et nous savons que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, ce ministère c'est service, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et vous lisez tout ce passage dans les épîtres et vous voyez ce que le Seigneur nous demande de faire. Chacun à la mesure de la grâce qu'il nous a faite. Certains vont pouvoir peut-être un jour prêcher devant des nations, mais tant mieux pour ceux qui le font. Certains ont à cœur de faire des travails dans les îles, dans les nations lointaines. Tant mieux pour les missionnaires qui partent. Et où c'est que le Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur, à travailler? Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? C'est pas le tout de répondre aux besoins qu'une église peut demander. Bien sûr que le Seigneur, il honore celui qui entend le besoin et qui répond. Mais il faut aussi surtout se laisser conduire par le Seigneur. Puis je termine avec cette pensée qu'il faut aussi, si nous voulons travailler à l'unité, optimiser, servir efficacement pour le Seigneur. Je lisais ça, une étude scientifique qui montre que le rythme optimal pour travailler, c'est 52 minutes de travail et 17 minutes de pause. Je ne sais pas si vous faites ça dans vos travails. 52 minutes de travail intensif et puis 17 minutes de pause où on coupe carrément, où il est recommandé d'aller marcher, de prendre l'air, de faire une pause, une vraie pause, puis après de refaire 52 minutes, etc. Et ils disent que ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'obtenir le maximum. Alors nous, on n'est pas dans ces calculs-là de savoir combien de temps on va consacrer à Dieu pour que ça soit optimal. C'est pas ça dont je parle. Ce que je parle, c'est ce que Jésus il a dit, Jésus l'a souligné à de maintes reprises. Est-ce que nous sommes utiles pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes utiles? Vous avez déjà noté toutes les paraboles où Jésus y parle de la personne utile ou la personne inutile? Vous avez déjà fait attention à ça? Je vous en cite quelques-unes. Vous allez me dire si vous les reconnaissez. Un homme qui construit sa maison sur du sable. C'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu. Mais c'est quoi le problème? Il ne met pas en pratique. Est-ce qu'il est utile? Ben non, ça ne sert à rien, parce que quand le vent il vient, la tempête, eh ben il y a tout qui s'écroule. Le serviteur qui est battu de grand nombre de coups, pourquoi est-ce qu'il est battu d'un grand nombre de coups? Parce qu'il connaît la volonté de son Seigneur, mais il ne la fait pas. Je continue. Un serviteur à qui on donne un talent, et vous savez ce qu'il fait avec ce talent? Il le cache, il l'enterre. Et qu'est-ce que lui dit le Seigneur Jésus? Serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Quand il est question d'un figuier qui occupe la terre et qui ne produit pas du fruit, un figuier inutile. Les vierges qui oublient de remplir leur huile, qu'est-ce qui se passe? Ben, un jour, elles arrivent à cogner à la porte du Seigneur et la porte est fermée. Les gens qui sont représentés par des boucs à la gauche du Seigneur. Et vous savez qu'il y a les brebis à la droite, ça c'est le peuple de Dieu. Et les boucs, ce sont ceux qui ont soi-disant agi pour Dieu, et finalement qui n'ont pas fait dans les plus petites choses de la vie. Vous relisez Matthieu 25, vous voyez qu'il est question de ceux qui ont donné des verres d'eau, ceux qui ont visité des personnes, ceux qui ont fait des choses toutes simples, ordinaires. Je reviens à cette chose-là. Mais si nous voulons être utiles pour le Seigneur, ça se commence par les choses ordinaires et petites de cette vie. Si nous servons le Seigneur dans ces choses-là, alors nous allons voir la gloire du Seigneur. Ça, c'est la manière efficace de servir Dieu. Quand nous disons, Seigneur, toute ma vie, elle est entre tes mains, fais-en ce que tu veux. Dans Néhémie, nous voyons, dans ce chapitre 3, nous voyons ce cœur de Néhémie. En plus, il a l'humilité de ne pas lui-même s'être mis. On ne sait pas ce qu'il a fait exactement, est-ce qu'il n'a fait que organiser, en tout cas il ne parle pas du tout de son travail. Pourtant je suis sûr qu'il a fait un grand travail. Mais il a l'humilité de même pas parler de lui. Mais il a dit voilà ce qui se passe quand des hommes et des femmes ensemble se lèvent pour construire pour le royaume de Dieu. Et que ça soit l'aspiration de notre cœur, que ça soit le désir de chacune de nos vies, que nous puissions nous lever et bâtir pour le royaume de Dieu. Et si nous faisons cela, alors laissez-moi vous dire que l'ennemi, il aura beaucoup plus de mal. Si je choisis de prier Dieu et de me contenter de ma communion avec Dieu personnel et juste ma famille, oui, ça fait une sorte de protection. Mais c'est tellement mieux quand la protection, elle concerne toute l'Église ensemble. Plus toutes sortes de familles ensemble qui s'unissent devant le Seigneur. Alors il y a une protection tellement plus grande, parce que le Seigneur veut que nous travaillions les uns à côté des autres. Amen. Merci Éternel. Merci pour, Seigneur, cette arme que tu nous as donnée, qui n'est pas là pour blesser, qui n'est pas là pour détruire, mais qui est là pour construire. Merci pour l'unité. Merci parce que par ton esprit, tu nous unis, Seigneur. Mais nous-mêmes, nous voulons être des artisans de paix. Nous voulons être de ceux qui procurent la paix. Seigneur, tu connais le passé, tu connais peut-être les relations qui ont été difficiles, et tu es capable, Seigneur, de permettre que ces choses soient réglées, afin que notre Église soit forte, afin, Seigneur, que nos vies, nos familles soient fortes, afin que, Seigneur, nos cœurs soient forts devant toi, et tellement d'assurance que nous pourrons, Seigneur, faire avancer encore plus le royaume de Dieu dans cette ville de Moissac. Seigneur, touche nos cœurs dans ces instants, que ton Saint-Esprit se répande sur nous, Seigneur, dans ces instants, afin que nous réalisions que oui, à côté de nous, il y a notre frère, il y a notre sœur, quelqu'un qui a fait la paix avec toi, quelqu'un qui s'est, Seigneur, engagé à te suivre par le baptême. Merci, Seigneur, pour cette réalité que tu nous donnes de voir dans notre frère, dans notre sœur, Seigneur, une personne de notre famille, dont nous devons prendre soin, avec qui nous devons travailler, avec qui nous devons servir pour ta gloire, Seigneur. Tu vois, de la même manière que des gens ont pu s'unir pour de mauvais prétextes, mais ont vécu des conséquences néfastes. À la tour de Babel, se sont unis pour bâtir une tour qui a servi à rien. Seigneur, nous ne voulons pas nous faire un nom, nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons nous lever et bâtir pour le nom de Jésus, afin que l'Église de Moissac et chacune de nos vies, Seigneur, soit un témoignage et que nous puissions être de ceux qui sanctifient ton nom par nos vies, Seigneur.